Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les IA se lancent dans la musique, Trump est de retour, le retour et la merdification des plateformes, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, merdification des plateformes. Je suis sûr que ça vous a interloqué, vous allez voir, c'est une théorie intéressante. C'est le numéro 498, je suis Patrick Béja et nous sommes encore en janvier, pour quelques heures, en janvier 2023. Je voudrais accueillir dans cet épisode, alors je ne sais pas dans quel ordre le faire, Guillaume est peut-être celui avec le plus de séniorité dans l'émission, c'est là. Guillaume. Comment vas-tu? Guillaume Bandé est avec nous.
Merci beaucoup. Écoute, je ne sais pas comment je vais prendre la séniorité. J'ai déjà pris un coup de vieux, mais je le prends bien malgré tout.
Merci beaucoup. C'est dans l'émission, tu es là depuis plus longtemps, je crois, je ne suis pas sûr.
C'est vrai, c'est possible.
Bienvenue et on reçoit également, c'est toujours un plaisir immense, Marie Turcan, rédactrice en chef de Frandroid, j'allais dire. C'est le même groupe, mais enfin, quand même, de Numérama, comment vas-tu, Marie ?
Il faut que je les prévienne. Salut, ça va ?
Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas au courant ? Salut Marie, comment ça va ?
Ben, ça va très bien, surtout que j'apprends mon nouveau poste à l'instant. Donc,
c'est cumulatif, tu vois, parce que c'est pour des questions de retraite. Pour un moment, il faut donc bon courage.
Travailler plus pour gagner la même chose.
C'est ça. Ben, on me demandait le dans la chatroom de Twitch si je ne faisais pas la grève. Et je disais, bah, moi je suis en Finlande, et en Finlande on a déjà la retraite à 68 ans, donc, enfin, pas pour tout le monde, hein, mais. Donc, bah oui. Mes beaux-parents ont pris leur retraite récemment, et c'est 68 ans pour les deux. Donc, c'est pas tout à fait la même approche du problème, effectivement. Donc, du coup, enfin, moi de toute façon, j'aurai pas de retraite. Donc, il faudra que je continue à travailler jusqu'au bout. Je sais pas si vous comptez sur votre retraite, vous pensez en avoir une ou pas?
Ah, moi, j'ai abandonné il y a bien longtemps l'idée. Hein.
D'accord. Donc, tu vois,
ouais, évidemment. Hein,
ouais. Voilà, du coup, 62, 64, 68, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on rigole quand même dans le Rendez-vous Tech ? Je dois vous prévenir que je suis malade. Je crois que j'ai chopé la crève des petits. Donc, j'espère que le niveau d'énergie de l'émission est la moyenne du niveau d'énergie des animateurs. Et donc, en gros, tout repose sur vous, Marie et Guillaume.
C'est vous. Oh merde.
J'espère que Marie, t'as bien mangé avant de se lancer, que t'as les Red Bull à portée de main, parce que
c'est hyper presque. J'ai fait des tractions et tout. Je suis là.
Bien. Ok, super. Bon, merci à tous les deux d'être là. Merci également à Benux Fox et à Nicole Groschin qui ont rejoint l'émission, les patriotes de l'émission. Merci à vous deux de soutenir notre travail et merci aussi aux producteurs Franck Matignon et Rémi X. C'est grâce à vous tous que cette émission existe et que je peux peut-être espérer, alors les retraites, je ne sais pas, mais que je peux peut-être espérer continuer à en vivre. Donc, un grand, grand merci à tous les patriotes et toutes les patriotes. Donc, je disais, il y a un programme plutôt sympathique. Je me disais qu'on allait commencer par un sujet plutôt léger et plutôt marrant, et en même temps, vous allez voir, c'est un petit peu fourbe ce que je suis en train de faire, donc on se lance dans les infos à retenir. Et la première, c'est l'IA, et c'est effectivement léger, c'est plutôt cool, c'est les IA qui se lancent dans la musique. J'ai voulu faire une sorte de blague avec le top 50, mais je me suis dit que ça allait trop me dater, donc je ne vais pas faire un titre avec... c'était comment il s'appelait ? Marc Toesca, et... Est-ce que vous savez, alors du coup je me grille complètement, mais est-ce que vous saviez qu'il disait « salut les petits clous » parce que c'était Marc Toesca, donc Marteau, et donc les petits clous.
Oh, incroyable.
Eh, vous voyez, on apprend des trucs dans le Rendez-vous Tech. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que après l'imagerie, après le texte, après plein d'autres choses, eh ben, on commence à avoir les prémices de, et à vrai dire plus que les prémices, de la musique générée par IA. Et la démonstration faite par Google est plutôt impressionnante. C'est un modèle, enfin un algorithme, un modèle de deep learning qui s'appelle MusicLM. Et il peut désormais, dans leur papier de recherche, ils montrent les résultats que ça peut donner. Alors, on avait déjà, je vous avais déjà fait écouter des trucs qui étaient issus d'IA générative de musique, mais c'était vraiment, le résultat n'était pas très convaincant, quoi. On était un petit peu au niveau des délires, comment dire, des délires de l'IA génératrice d'images, où c'était des sortes de rêves bizarres, des hallucinations. Là, ce qu'on a avec MusicML, ça commence vraiment, pardon, MusicLM, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On n'est pas au niveau d'impressionnement, peut-être, de Midjourney ou de DALL-E ou de ChatGPT, mais c'est encore un autre domaine que commence à conquérir l'IA. Je vais vous faire écouter quelques morceaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce que ça donne quand on propose, quand on demande, je vais le dire en anglais, peut-être en traduction en français en instantané. La musique d'un jeu d'arcade, c'est rapide et catchy, avec un riff de guitare électrique, ça va, c'est pas trop difficile à traduire encore. Cette musique est répétitive et facile à se souvenir, il est facile de s'en souvenir, mais il y a des sons inattendus, comme des cymbales ou des morceaux de batterie. Voilà ce que ça fait. Voilà pour ce morceau de truc d'arcade. Là, on a une fusion de reggaeton et de la musique dance électronique. J'espère que vous appréciez le rythme non binaire. Enfin, si c'est binaire. Bon, ok. Pas fou. Musique synthétique, des rising synth avec des arpèges et beaucoup de réverbération. Il y a environ 3 lignes de description pour chaque morceau. Alors encore une fois, ça, c'est des morceaux de musique qui n'existent pas ou qui n'existaient pas jusqu'à ce que la requête de 3 lignes en texte soit faite à MusicML. On a plein d'exemples supplémentaires, hein, je ne vais pas vous saouler avec tous les exemples, mais voilà plus ou moins ce que ça peut donner. Et c'est donc de la génération complètement... de la même manière que les images, c'est des trucs qui n'existent pas et qui ont été créés à la volée par l'intelligence artificielle suite à une requête spécifique. Le truc, alors c'est uniquement, c'est pas accessible librement, contrairement à ChatGPT, donc c'est encore niveau de recherche, et ils disent l'un des problèmes qu'on a avec ce modèle, c'est qu'environ 1% des morceaux, alors c'est eux qui donnent le chiffre, hein, mais 1% des morceaux est quand même très très proche des morceaux d'origine. En gros, il copie des morceaux qu'on a utilisés pour générer l'IA. Ils ont utilisé environ 280 000 heures de musique pour générer cet outil. Et parfois, ils disent 1% du temps, eh ben, on reconnaît quand même la musique existante. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle capacité de l'IA? Enfin, cette nouvelle IA qui a des capacités musicales. Je vais peut-être poser la question à Marie. Je ne sais pas si je vais te demander si tu écouterais ça à la place de...
Pourquoi pas.
je vais le mettre un petit peu en fond. Qu'est-ce que tu en penses alors de cette nouvelle outil?
Ah ouais, c'est giga fort dans mon oreille.
Ah merde, pardon. Ok, bon, je vais arrêter.
Non, j'aime bien. On peut juste te laisser un petit peu. Parce que c'est pas que j'apprécie pas... Et j'ai déjà fait une grosse soirée samedi. Donc...
D'accord. Donc, non, tu sais comment construire tes playlists pour la prochaine. Très bien.
Voilà, voilà. Non, je trouve ça... Ce qui est assez intéressant, c'est bon, le milieu de la musique, il est quand même un peu nourri par les ordinateurs depuis un bon moment. Et enfin, il y a quelque chose de très intéressant et de très impressionnant qu'on écoute depuis des années, c'est le vocodeur. qui est beaucoup utilisé déjà pour permettre à des gens de chanter juste, qui est déjà très très impressionnant en soi. Donc là, on passe à un niveau supérieur qui est générer de la musique, mais générer de la musique à partir de mots et de textes. Et c'est ça qui, moi, me fascine dans ce projet, c'est que du coup, non seulement l'IA, donc évidemment, il y a des styles, hein, ça peut être si vous mettez jazz, si vous mettez, comme tu disais, percussion, on sait ce qu'on va entendre, mais il y a aussi pas mal de manières de rentrer à un prompt. Donc le prompt, c'est l'ordre que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Et la manière de le rentrer, ça peut être aussi, donne-moi une musique mélancolique que j'aurais envie d'écouter sous la pluie. Et c'est là où, du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus, on fait beaucoup plus appel aux émotions et à ce que la musique nous fait nous sentir. Et c'est là où on va voir les progrès en somme, je trouve. Parce que, dans l'exemple de Google, là, il y a même des exemples avec des peintures. Je ne sais pas si vous avez vu.
Tout à fait.
Mais ouais. Ils ont mis un tableau de Dali. Et puis, à partir de ce tableau de Dali, ils ont utilisé une description du tableau qui fait appel à des sentiments, parce qu'il y a des descriptions un peu sur la solitude, sur le temps qui passe, sur l'éphémère. Et après, il y a... c'est ça, c'est ce qu'on écoute.
Exactement. Ça, c'est Dali.
Ah bah super.
Enfin, Dali, le vrai Dali, pas Dali, mais Dali, c'est
oui.
The Persistence of Memory.
J'allais dire, on aurait pu faire deviner quel était le tableau aux gens.
C'est celui avec les horloges qui sont fondues sur le paysage.
Ouais.
Si ça veut dire quelque chose.
Et du coup, c'est aussi c'est en même temps quelque chose qui montre encore aujourd'hui pas les limites, mais aujourd'hui, que ce soit ChatGPT dont on parle beaucoup, que ce soit là Google, on est obligé d'utiliser les bons mots. Et je trouve que du coup, ça remet un peu la sémantique au cœur de nos sociétés actuelles. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu, parce que même quand on parle de code et d'algorithme, c'est le langage, alors qu'il est primordial, est finalement assez peu déconstruit. Et là, je trouve qu'il est remis sur le devant de la scène. C'est qu'en fait, si vous utilisez les bons mots, et on le voit notamment quand on utilise DALL-E, donc l'autre DALL-E, qu'en fonction du mot que vous allez utiliser, le résultat imagé sera totalement différent. Et du coup, je trouve ça remet un peu ça au centre de tout ce qu'on construit, et ça va... Enfin, et en même temps, ça va générer des limites, forcément, parce que ça va toujours être la même chose des personnes qui utilisent le mieux le langage qui vont pouvoir le mieux utiliser ces outils.
Ouais, et puis il y a un langage, il y a presque une grammaire spécifique qui se développe pour obtenir ce qu'on veut. On le voit sur les générateurs d'images. Si vous traînez sur le Discord de Midjourney, on comprend rien. C'est pas du code, évidemment, je veux dire de la programmation. Mais on comprend pas vraiment, si on n'est pas familier de ce type de syntaxe, on comprend pas vraiment ce que les gens tapent.
Enfin, c'est quasiment du code, comme tu dis, en vrai.
Ouais. Guillaume, ça t'inspire? Je vais mettre un petit morceau de guitare acoustique là. Ils ont juste demandé guitare acoustique.
C'est beau.
Et vous remarquez que il y a pas de chant. Et effectivement, j'ai pas vu dans tous les exemples que j'ai vu du chant, mais on peut dire, on peut lui demander de fredonner quelque chose.
Na, na, na,
et là,
on m'a fait flipper ça quand j'ai.
Mais j'ai cru que c'était Guillaume aussi.
La première fois.
Ou de siffler. Là, c'est la même requête, mais avec fredonner ou siffler. Voilà, ce genre de choses. Donc, pardon. Et oui, mais moi aussi, j'ai cru que c'était Guillaume. On nous dit dans la chatroom. Je me suis dit, j'ai posé la question à Guillaume, il s'est mis à fredonner un truc. Vas-y, pardon.
Je chante pas aussi bien et je siffle pas aussi bien. C'est marrant quand même, hein, cette histoire de génération de musique, parce que c'est vrai que c'est moins viral que l'image, quoi. L'image, très rapidement, on peut en parler, diffuser ça sur les réseaux sociaux, puis ça peut faire un peu une chambre de résonance et un sujet de discussion assez cool. La musique, c'est probablement moins le cas, et pourtant, c'est assez chouette à regarder. J'aime beaucoup ce que tu dis, Marie, sur l'universalité de l'outil de création que représente le prompt, et peut-être est-ce que ça va pas démocratiser la création au sens large, que ce soit la création d'images d'un point de vue artistique, comme on l'a déjà vu, ou pour la musique, c'est très très chouette. Moi, je m'interrogeais sur les 1% qu'ils arrivent à recouper comme étant des éléments de copie d'autres musiques, enfin en tout cas suffisamment proches pour qu'ils considèrent que c'est trop proche pour probablement les ayants droit ou pour le manque d'originalité.
Bien sûr. C'est exactement le problème.
Ouais. C'est évidemment le problème. Hein. Et du coup, je me demandais quand même qu'est-ce qui faisait que ce pourcentage était aussi entre guillemets fort et qu'il était peut-être moins identifié que pour les images. Est-ce que c'est plus difficile de faire une création originale dans le monde de la musique que dans le monde de l'image? Je suis pas suffisamment artiste et évidemment pas du tout musicien pour m'avancer là-dessus, mais je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce chiffre qui soit avancé.
J'espère qu'il n'y a pas d'artiste, de dessinateur ou de peintre qui nous écoute parce qu'il risque de pas être très content de cette supposition.
Oh oui, non. Oh la masse. Interprète.
Enfin, quand même, on va lui dire tu prends un pinceau, tu l'agites sur la toile, ça va quoi. C'est bon. C'est pas. Et la musique, il y a quand même pour apprendre à jouer. Tu vois, il y a des cordes à pincer quand même. Non, mais c'est une bonne question. Je pense, moi, on fera peut-être en after show, je verrai plus d'exemples que je vous ferai écouter parce qu'il y a des trucs super intéressants comme ils disent des époques, donc des airs. On peut lui demander, par exemple, des décennies. Un club dans les années 50, un club dans les années 60, un club dans les années 70, un club futuriste. On écoutera ça peut-être avec les Patriotes dans l'after show après l'émission. On y reviendra. Mais je crois que l'une des pistes de réponse peut-être à la question que tu poses vient de la manière dont ces IA doivent être modelées pour faire attention à certaines choses. Le travail de plagiat, entre guillemets, hein, si on peut l'appeler comme ça, est évidemment important. Enfin, important. Il est important de faire attention à ça et on le voit avec les générateurs d'images. Il est très facile d'obtenir une image qui soit quasiment du plagiat, en tout cas, qui utilise le style d'un artiste connu. Et donc, tu vois, ça, quand c'est Midjourney qui sort de nulle part, qu'il fait avec de l'image, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais quand c'est si Google sort un outil musical qui te permet de reproduire n'importe quelle chanson ou n'importe quel style d'un artiste existant, là, tout de suite, l'industrie de la musique, qui est peut-être un petit peu plus unifiée et qui a une force de frappe plus grande, sera plus intéressée par l'idée d'aller voir Google pour leur dire « Mais vous faites quoi, là ?» Un instant, nous avons nos avocats qui sont en train d'écrire un petit truc qu'on va vous envoyer. Je pense que ça a à voir avec ça.
Est-ce que si on est un peu moins cynique, ou un peu plus cynique, on pourrait pas se dire que c'est déjà quand même vachement le cas globalement? Si aujourd'hui on a envie de copier le style musical de Sia, on va le copier. Je trouve que les débats sur ChatGPT sont intéressants parce que, enfin, sont sur la panique potentielle ou le droit d'auteur ou sur Dali parce qu'on va avoir une capacité à vraiment flouder, enfin noyer l'univers de plein de contenu, donc plein de textes, plein d'images. Là pour la musique, je sais pas, je serais un petit peu plus optimiste, ou en tout cas, je verrais un petit peu moins un monde dans lequel ce serait vraiment. Est-ce que les gens auraient vraiment très 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 envie d'aller écouter 150 albums d'un plagiat d'un ou une artiste, tu vois, par rapport à.
Enfin,
je
sais pas. En plus,
je le vois un peu moins.
Le nom choisi est quand même très à propos.
Je sais pas, IA,
c'est un artiste qui est fait par IA qui reproduit uniquement des morceaux inspirés de SIA.
C'est vrai. Je sais pas pourquoi elle m'est venue en tête. Non, mais c'est
exactement ça. Mais oui, non. Enfin, je crois que la musique n'est pas étrangère à ce genre de problème, ne serait-ce qu'avec les questions de samples qu'on a beaucoup eues il y a quelques temps.
En plus, oui.
Je pense qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Google, ils ont été très prudents sur l'IA. Je les suspecte d'avoir publié ce papier. Je ne sais pas si c'est le cas, mais d'avoir publié ce papier pour, au milieu de la frénésie de la mode des IA.
C'est possible.
Ah ben nous aussi. Regardez, nous, on fait de la musique. Hein, vous n'avez jamais vu ça. Enfin, les autres étaient très peu convaincants. C'était des sortes de bruits bizarres. Mais je pense qu'ils sont juste, ils sont prudents et peut-être plus prudents que d'autres parce qu'ils ont déjà eu le problème avec notamment enfin YouTube, Google partout. Mais là où je voulais en venir, je vais juste mentionner un instant deux autres applications des IA sur lesquelles on va pas s'attarder. D'une part, il y a des chercheurs qui ont également publié un papier expliquant la manière dont une IA est en train de les aider à générer des molécules antibactériennes. C'est une IA qui s'appelle, comment elle s'appelle, Progen, je crois, je retrouve le nom, je crois que c'est Progen, qui les aident à générer des IA antibactériennes. Alors, il y en a eu, ils en ont sorti des tonnes, et ils en ont testé 100, et sur les 100, il y en avait 2/3 qui étaient effectivement efficaces. Ça reproduisait l'effet de protéines dans la salive qui vous permettent de tuer les bactéries du blanc d'œuf. Hein, c'est très spécifique. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'à terme, ça pourra donner quelque chose de vraiment efficace pour générer de nouveaux médicaments. Et donc, l'IA permet de tester, en fait, finalement, c'est ce qui se passe, de tester virtuellement toutes sortes de protéines et d'en trouver qui sont efficaces. C'est plus que de les tester, c'est d'en trouver qui sont efficaces. Et puis après, on les teste en vrai. Et il y a aussi un autre domaine, c'est celui de la surveillance du public. Le Sénat n'est pas contre l'idée que pour les JO de 2024, les caméras de surveillance soient utilisées. Alors, il faut bien préciser la chose, c'est pas pour de la surveillance de visage, de la reconnaissance faciale, mais pour étudier les mouvements de foule par IA, pour peut-être détecter des mouvements anormaux ou inquiétants ou ce genre de choses. Ça reste un sujet qui est quand même assez controversé, très discuté. Dès qu'on commence à utiliser des ordinateurs et de la surveillance, forcément, il faut être très prudent. Mais là, peut-être qu'on aura une utilisation d'une IA qui analyserait donc les images et qui pourrait signaler s'il y a quelque chose d'inhabituel ou d'inquiétant. C'est pas encore passé, évidemment. Les associations concernées par ces sujets s'y intéressent de manière très proche. Le truc où je voulais en venir, c'était un petit peu du côté, le côté sombre des IA et la manière dont ChatGPT a réussi à, de manière assez efficace d'ailleurs, a réussi à nettoyer son IA, parce que, évidemment, on peut toujours réussir à faire un truc un petit peu malin et obtenir des résultats qui ne seraient pas forcément acceptables, mais il y a un papier du Time, du magazine Time, qui enquête sur la relation entre OpenAI, qui est le développeur de ChatGPT, et une société qui s'appelle Sana, pas dire de bêtises, qui travaille essentiellement au Kenya, avec des personnes kenyanes, et qui a utilisé donc les services de Sana pour labelliser du contenu inacceptable et de cette manière entraîner une IA qui permettrait de l'extraire ou de l'interdire dans l'utilisation de ChatGPT. Il y a deux volets à cette étude qui a un petit peu fait le tour du net. C'est Sama, pardon, pas Sana, la société qui travaille au Kenya. Il y a deux volets. Il y a d'une part le salaire des nombreuses personnes qui ont été utilisées pour labelliser tous ces extraits ou ces descriptions. Et d'un autre côté, il y a le travail lui-même, qui est le travail de labellisation, qui est particulièrement dur. La question du salaire, ben, on est dans un salaire qui est évidemment très bas. Hein, c'est un travail qui est peu qualifié. Ils sont allés à l'endroit où ça coûtait le moins cher. Donc, on est à un salaire de 1 à 2 dollars par, 1 à 2 dollars par jour. Ce qui est à peu près le salaire moyen, pas par jour, pardon, par heure. Par heure, oui, excusez-moi. Par heure, ce qui est à peu près le salaire moyen au Kenya. Donc après, on peut débattre de est-ce que c'est trop, trop peu et quelle est la responsabilité des boîtes dans cette question. Je pense que c'est un petit peu un débat que j'écarterais parce que ce n'est pas forcément une question directement tech. Par contre, la question de la labellisation, c'est un peu le même problème que la modération avec Facebook, c'est un problème d'un large volume de données qu'on peut traiter de manière assez peu qualifiée, simplement en regardant et en disant ce que c'est. Le problème, c'est que ces contenus, dans le cas de la modération, comme dans le cas de la labellisation pour les IA, ce qu'on recherche, c'est le pire contenu possible, imaginable, et je ne vais même pas décrire de quoi il s'agit parce que c'est l'idée d'y penser est perturbante, et ce sont des gens qui sont exposés à ce genre de contenu et ce genre d'idées pendant des heures et des jours et des semaines, et qui en souffrent. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces sociétés n'ont pas une responsabilité plus grande par rapport à ces tâches-là ? J'ai du mal à... certainement qu'il faudrait peut-être faire plus attention à ce genre de choses, mais c'est sans doute, je crois, à la fois pour la modération et pour la labellisation pour les IA, un travail qui est nécessaire. Et du coup, il y a bien quelqu'un qui doit le faire. Est-ce que ça serait plus acceptable si la personne était mieux payée, mieux prise en charge, qu'elle travaillerait moins sur de moins longue durée? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à cette question, parce que si ChatGPT fonctionne sans des excès de contenu infâme, c'est aussi parce que ce travail a été fait. Donc, je ne sais pas, si vous, Marie, si tu as la réponse, je suis heureux. Alors, hop, non, je résous le problème aujourd'hui en direct.
Je n'ai pas la réponse, mais j'ai un avis en tout cas sur... en effet, il y a quand même dans nos sociétés des métiers plus pénibles qui ont des facteurs de pénibilité, qui ont du coup soit des meilleurs salaires, soit des meilleures prises en charge, que ce soit un soutien psychologique, que ce soit des infrastructures mises en place. Là, le grand souci, c'est à la fois le fait qu'il soit très très mal payé, pas du tout encadré, et aussi que ça représente en fait plus largement la manière dont les grandes entreprises modèrent aujourd'hui les contenus en ligne, on appelle ça du coup les travailleurs du clic, le fait que ça fait des années et des années qu'on a compris que les grandes entreprises, au lieu d'avoir embauché des modérateurs avec un salaire, ils prennent des contractuels, donc ils ont affaire à par exemple des entreprises en Malaisie pour Facebook qui travaillent avec des dizaines de milliers de contractuels payés une misère pour aller tous les jours modérer les contenus, tout en disant oui, mais il y a un filtre qui a été mis en place par les IA et du coup les modérateurs humains ont moins de travail. Alors c'est sûrement vrai, mais quand on voit qui est à la base payé et pour entraîner ces IA-là, finalement, on en revient toujours au même. C'est à la même exploitation, au même système de classe et à la même mondialisation certains pays qui grandissent beaucoup en exploitant les autres et les ressources des autres qui n'ont pas vraiment le choix de prendre soin de leur santé mentale et morale. Maintenant, c'est pas forcément une grande surprise, sachant que ChatGPT vient à la base a été nourri par des centaines et des millions de contenus provenant du web, et on sait que ce qui traîne sur le web n'est pas très 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 joli. Donc, on en revient aussi un peu au serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, un travail titanesque qui doit être effectué. Enfin, vu le nombre d'internautes qu'il y a dans le monde et vu le peu de modérateurs, on avait fait le calcul à Numérama sur ces 2 milliards d'utilisateurs de Facebook et 45 000 contractuels, je crois. Je veux dire que c'est un manque cruel de... Et aujourd'hui, les États n'ont toujours pas légiféré sur le... alors qu'ils pourraient obliger les entreprises à embaucher traiter en fait, à interdire ce genre de pratique en fait, d'avoir recours à des contractuels mal payés, ça peut potentiellement être interdit. On peut les obliger à mettre en place des.
Ouais. Je ne sais pas si ça serait préférable, par exemple, d'obliger les sociétés, par exemple, à embaucher des gens dans le. Imaginons que ça soit possible. On va dire OpenAI, c'est une boîte américaine, ils embauchent des gens aux États-Unis. Je ne suis pas économiste et je ne suis pas un spécialiste, mais je ne sais pas si les employés au Kenya, avec le salaire qu'ils sont payés, qui est bas pour nous, mais moyen pour le Kenya, ils vivent moins bien que des employés américains qui seraient payés le salaire minimum ou pas loin aux États-Unis pour faire le même travail. La question de la nature du travail, par contre, alors, pour être complètement précis, Sama... assure qu'ils offrent des conseillers psychologiques qui font un suivi, qu'ils ont des compensations. C'est le cas, ils sont plus payés parce qu'ils ont ce travail lourd, pénible. Ceci dit, au moment où les scandales sur les histoires de modération de Facebook sont sortis, Sama a dit à OpenAI, finalement, on arrête de bosser avec vous parce qu'on ne peut plus. Donc, ils ont interrompu le contrat en février de l'année dernière. Donc, comme quoi, il y a quand même un truc où ils se disent c'est peut-être pas super, super clean. L'idée de réguler le travail pénible, moi, je reviens souvent, il y a énormément de travaux qui sont lourds mais absolument nécessaires et qui sont pas reconnus, et c'est ça qui est terrible. Je reprends souvent l'exemple des éboueurs qui font un travail. Oui, mon cœur. Il y a mon fils qui sonne à la porte. J'espère qu'il y a pas de problème. C'est la joie. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime aussi.
J'adore.
Il est juste venu me dire qu'il m'aime. Vous voyez, quand je me plains...
Non, mais quel bonheur, quoi.
Je me plains de tous ces trucs. Et là, en plein dans l'émission, il vient juste... Il veut juste me faire un bad buzz pour mon... Je m'en plains tout le temps. Oh, il est malade, il est excité, machin. Ah, bon. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Les éboueurs, c'est nécessaire, c'est hyper important. Ils sont hyper mal considérés. Le jour où les éboueurs arrêtent de travailler, la société s'écroule. Et c'est un exemple que je prends comme ça parce que... Et là, c'est un travail qui est hyper important aussi. Donc, je ne sais pas.
Après, ça, est-ce que... Oui, alors, bon, pas forcément, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les comparaisons comme ça parce qu'on ne parle quand même pas de la même nécessité, des mêmes besoins. Aujourd'hui, créer ChatGPT, oui, ça peut potentiellement changer des choses et industrialiser éviter des tâches très redondantes à beaucoup de gens dans le futur. Aujourd'hui, c'est pas la nécessité numéro un dans le monde de modérer une intelligence artificielle, quoi. Enfin, de modérer cette intelligence artificielle. Par contre, un des gros changements qu'il y a avec ChatGPT, c'est que l'IA a été lancée après avoir été modéré, alors que avant, en tout cas aujourd'hui, on paye les pots cassés d'un manque d'intelligence, hein, d'anticipation des problèmes qu'il aurait pu avoir par Twitter, par Facebook, et maintenant on essaye de modérer a posteriori. Là, ils essayent de modérer, ils ont au moins eu la finesse d'être allés chercher en amont avant de le mettre dans le domaine public. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, ça crée une espèce de levée de bouclier de la part des conservateurs américains, notamment, qui estiment que les IA sont trop de gauche désormais. Ouais. Parce qu'on
en parlait
plus,
la semaine dernière. Oui.
Ah voilà, on ne peut plus leur demander d'être transphobe. C'est très dommage, j'imagine.
On en parlait la semaine dernière et il y aurait beaucoup de choses. Peut-être que je ferai un édito sur ce sujet à un moment. Bon, il y aurait des choses à dire. C'est effectivement assez... Mais ça, c'est récurrent. On en parlera peut-être dans un instant aussi.
Ce qui est très marrant, c'est que c'est les mêmes personnes qui ont dit que les IA étaient neutres pendant des décennies et qui se sont battues pour nous faire croire, pour marteler que les IA étaient neutres comme si c'était vrai. Et maintenant, ils comprennent que les IA ne sont pas neutres. Mais comme elles ne sont plus en leur faveur, du coup, ils changent de discours. Mais c'est assez rigolo.
Ils ne sont pas à leur coup d'essai dans ce domaine. Guillaume, bon, on a un petit peu fait le tour, mais je suis sûr que tu vas nous faire voir la lumière sur cette question.
Oula.
Puisque Marie n'a pas réussi à nous trouver une solution idéale et miracle, je me retourne vers toi.
Ouais, je vais pas la trouver non plus. En fait, moi, j'étais en train d'arbitrer tout à l'heure. Est-ce que je devais glisser une petite blague pour accorder avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, du côté de la politique, pour dire au moins leur travail, il est reconnu comme pénible, ils partiront à la retraite plus tôt. Mais en fait, je me suis dit que c'était pas l'idéal de développer ça. En fait, non, tu disais, Marie, le fait qu'on avait un peu appris par rapport à la modération des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est la manière positive de voir les choses. T'as raison. Aujourd'hui, avant que ces algorithmes soient dispo dans Word, demain, et payant pour les entreprises, j'imagine, au moins, il y aura eu un premier travail d'anticipation qui sera fait sur la modération de ce qu'on peut faire. Tant mieux, c'est vrai que c'est une belle manière de tirer l'enseignement. Quand même, moi, ce qui m'embête le plus là-dedans, au-delà en fait du salaire horaire, au-delà de la nécessité de le faire que tu as rappelé, Patrick, c'est une évidence, c'est vraiment le soutien qui est fait auprès de ces gens-là, quoi, le soutien psychologique, l'accompagnement. Il est proposé a priori, mais les témoignages semblent concorder sur le fait que ils sont pas suffisants. Et puis, est-ce que les conditions sont réunies pour inciter les gens à faire appel à ce type de soutien? En fait, c'est plus ça, moi, qui m'interpelle beaucoup. Et peut-être que ce sera l'étape d'après. On aura appris qu'il fallait modérer avant, et puis après, l'étape d'après, c'est de dire qu'il faudra modérer de manière optimale, quoi.
Ouais. Le fait est qu'effectivement, la modération est prise en compte et je crois que oui, la pénibilité de ce travail devrait être alors évidemment dans les réactions à l'article de Time, tout le monde dit, Sam a dit oui mais nous on a prévu du soutien et du côté de OpenAI ils ont dit on travaille qu'avec des gens qui font un super soutien et peut-être qu'il y avait un soutien très correct hein, mais en tout cas que ça soit pris en compte c'est important et ce genre de travail journalistique est important parce que c'est grâce à celui-là par exemple sur Facebook comme le notait Marie que sur OpenAI et ChatGPT il a au moins été anticipé quoi. Donc, on va dire qu'effectivement, on va dans le bon sens. On peut se dire ça. Du coup, on passe au deuxième sujet qu'il fallait retenir, c'est Trump de retour, le retour, puisque après avoir eu son compte Twitter réactivé, même s'il ne l'utilise pas encore, à part, a priori, il y reviendra au mois de juin, je crois, eh bien, Meta a décidé de réactiver également le compte de l'ancien président américain. Il y a des choses à préciser là-dedans, parce que je crois qu'il est facile de se dire « Oh mon Dieu, voilà encore Meta qui va permettre à Trump de diffuser sa haine sur les réseaux. » Et clairement, c'est une préoccupation et une crainte qui est tout à fait légitime et que je pense beaucoup de gens, dont moi, que beaucoup de gens, dont moi, partagent. Le cas de Facebook est un petit peu particulier parce que la suspension est arrivée au moment des événements du 6 janvier et quelques temps après, le conseil de surveillance de Facebook, qui est indépendant, a demandé... La suspension était indéfinie sur la durée. Et le conseil a dit « Vous ne pouvez pas juste suspendre les gens de manière indéfinie, il faut donner une date de fin ». Et donc, ce conseil que Facebook écoute ou n'écoute pas, hein, c'est parfois on sait bien qu'ils ne les ont pas écoutés, sur ce point, je crois qu'ils pouvaient difficilement ne pas les écouter parce que c'était un sujet tellement important, ils devaient au moins répondre. Donc, ils ont dit, bon, bah, on le fait donc pour 2 ans, ce qui est un truc standard. Et en réactivant le compte, ils ont mis un certain nombre de garde-fous. Ils ont très précisément, Nick Clegg, qui est un petit peu le numéro 3 de Facebook aujourd'hui, a été... subtilement, mais enfin, c'est quand même assez clair, ce qu'il dit, c'est on garde nos règles importantes. C'est, en gros, on n'est pas sur Twitter, quoi. C'est pas Elon Musk qui dit, bon, bah, maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est sur Facebook, ils ont visiblement réactivé le compte, mais s'il dit des choses qui vont contre leurs conditions d'utilisation, il sera rebanni. Il y a tout un tas de cadrage qui a été fait. Donc, ça, c'est un élément à... Moi, je crois... Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne voulaient pas réinstaurer le compte. Je n'irai pas jusque-là. Peut-être même que ça leur fait de la pub. Mauvaise pub, peut-être, mais ça leur fait de la pub, imaginons. Mais j'ai l'impression que dans les conditions qu'ils ont mis, ils ne veulent vraiment pas que ça dérape, quoi. Par exemple, ils disent des références, même à demi-mot, à du contenu comme QAnon, eh ben, ça viole nos standards. Par exemple, ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas... s'il dit que... c'est des choses qui semblent être assez strictes. À côté de ça, il y a une chose qui est intéressante, un article qui est intéressant dans The Atlantic par Charlie Warzel, qui dit « On s'inquiète de ce retour de Donald Trump sur Facebook. » Encore une fois, ce qu'on peut comprendre. Mais on n'est pas dans le monde de 2015 ou 2016 ou 2017. On est dans un monde où Facebook a perdu de son importance et Donald Trump a perdu de son importance. Donc peut-être qu'on s'inquiète, évidemment, il faut être vigilant, mais peut-être qu'on s'inquiète un peu trop, quoi. On n'est plus dans le même monde. J'aimerais y croire, je ne sais pas
ouais,
si...
C'est un luxe, ouais, j'ai l'impression que c'est que ça, c'est quand même un luxe de personnes qui ne sont pas forcément menacées par les politiques que Donald Trump pourrait porter. Quand on voit les sondages américains, quand on voit comment Joe Biden a failli perdre à nouveau, je ne serais pas aussi confiant et je trouve ça même un petit peu maladroit d'assurer que plus personne n'utilise Facebook ou que c'est toujours des...
C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Hein.
Non, mais de dire... Oui, j'exagère. Mais tu vois, le côté Facebook n'a plus d'importance. On voit quand même, et notamment on l'a vu pendant la crise du Covid avec les antivax, combien... Facebook a joué un rôle majeur dans la propagation des fausses informations sur le vaccin et combien, je ne veux pas être désobligeante pour les boomers, mais il y en a quand même beaucoup qui se baladent, qui s'informent sur Facebook, qui sont nourris par ces algorithmes-là, qui ne sont plus jamais, dont les fils chronologiques n'existent quasiment plus, voilà, avec cette pondération qu'on connaît pour les informations qui génèrent des contenus négatifs. Donc, bon, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a un peu plus conscience de ce que ça peut faire et je pense qu'on a un peu plus conscience de ce qu'on voit en ligne, mais tout de même, je ne serais pas si rassurée. Mais par contre, je pense que vous l'avez vu, mais Donald Trump est revenu sur Facebook, mais il n'est pas vraiment revenu sur Facebook. C'est-à-dire que son compte a été réinstauré, mais lui ne poste rien.
Non, il a encore l'exclusivité avec Truth.
Voilà.
Et c'est ça
très drôle.
ce que j'évoquais, comme sur Twitter d'ailleurs, il poste rien, c'est ce que j'évoquais à l'instant et dont on parlait la semaine dernière, qui est que selon les rumeurs, la fin de son contrat avec Truth est en juin, et c'est un petit peu le moment où ça commence à s'échauffer pour les primaires républicaines, et que c'est à ce moment qu'il réinvestirait les plateformes un petit peu plus traditionnelles. Entre parenthèses, sur Truth Social, il y a un article assez intéressant du New York Times qui a étudié les pubs qu'on voit sur Truth Social. Je le mettrai dans la newsletter. Je vous invite à aller voir. Hein. Il y a des trucs vraiment... Enfin, les pubs, c'est des poupées Donald Trump, comment enseigner à vos enfants le guide du président Trump à vos enfants, pourquoi le socialisme n'est pas bien pour l'Amérique. Pour eux, socialisme et communisme, c'est la même chose. Hein. Pour vos enfants, les kids guide, des billets de 2 dollars, des lingots d'or qui ne sont pas des pièces en or, enfin, qui ne sont pas vraiment en or. Enfin... Que des trucs comme ça. Donald Trump en Terminator, Bobblehead, vous savez, ce genre de trucs.
Est-ce qu'on a une idée du succès ou pas de ces pubs-là ?
De ce réseau ?
Parce que
de ces pubs ?
Ouais, non, des pubs, parce que tu vois, le fait que... Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on apprend que bon, les annonceurs traditionnels ne sont jamais allés sur Truth et du coup, n'ont rien à faire de mettre leur argent là-dedans. Mais en fait, je me demande, est-ce que les gens qui utilisent Truth, du coup, cliquent dessus, achètent des trucs, ou je sais rien.
Alors, ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'ils reçoivent des plaintes de leurs utilisateurs disant « Oh, mais j'ai acheté un mini lingot d'or, en fait, c'était pas vraiment en or, c'était de la peinture dessus, tu vois, ce genre de truc. Je me suis fait arnaquer trois fois. » Je sais pas si... J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Mais c'est comme toutes les pubs super, comment dire, basse qualité qu'on peut trouver partout sur le net. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Il y en a partout, des trucs comme ça. Donc, quelque part, ça doit marcher. C'est juste que ce qui est important à retenir, effectivement, c'est que sur Truth, visiblement, elle représente une grosse majorité des pubs. Les annonceurs traditionnels n'y vont pas. Et ça peut amener à une réflexion aussi sur ce qui est en train de devenir Twitter. Même si on n'est pas du tout au même niveau, sachant qu'en comprenant ce précepte que je répète depuis un moment dans le cadre de Twitter, c'est que le net fonctionne avec la pub, the net runs on ads, et on voit bien que sur Truth, ça ne marche pas. D'ailleurs, si Trump finit par revenir sur Twitter et sur Facebook, c'est bien que Truth n'a pas la portée qu'il espérait. Quoi. Enfin, clairement, je vais arrêter de dire les choses à demi-mot. Personne n'est sur Truth Social à part les fans de Trump.
Même pas Trump.
Et Trump, enfin si, lui, il y est par
même
contrat, mais il va finir par
partir.
Oui,
oui.
Donc bon, voilà. Moi, j'aimerais croire que peut-être ça aura moins d'impact qu'en 2015, mais on verra bien. Hein. De toute façon, on va avoir la réponse dans 2 ans maximum, 1 an.
Le regard et la conclusion qui vise à dire effectivement, bon, Facebook, c'est plus ce que c'était, ça n'a pas la même portée. Oui, c'est peut-être vrai, mais je suis assez d'accord sur le fait que c'est quand même un peu biaisé. Moi, ça me fait un petit peu penser aux réflexions qui sont faites autour de la télé aujourd'hui. Oui, la télé, on ne la regarde plus, nous trois, probablement les auditeurs, tous autant qu'on est. Il y a eu un déclin énorme, mais la puissance de la télé est dingue. Quelqu'un qui passe à la télé aujourd'hui pour présenter son livre, il est assuré d'être dans les top 10, top 20 dans des stores Amazon. Enfin, vraiment, c'est fou d'ailleurs qu'on puisse en arriver à dire, oh, bon, après, quelque part, c'est peut-être pas si grave que ça.
Alors, encore une fois, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, hein, mais je comprends ce que vous... Ouais, ouais. Bon, écoutez, le jour où Trump ira sur TikTok, je pense qu'on pourra vraiment recommencer à en discuter. Et... ce dont on n'arrête jamais de discuter, c'est la manière dont vous pouvez tous soutenir non pas un parti politique ou une IA ou un milliardaire, un millionnaire, je parle de moi, voilà. Vous pouvez me soutenir, moi, dans mon travail. C'est pour ça que je ne veux pas avancer de chiffres, parce que, vous voyez, si je dis « vous ne pouvez pas, c'est pas forcément un millionnaire » et que finalement, vous vous rendez compte que je suis millionnaire, peut-être que vous direz Patrick ment, mais non, je ne mens pas du tout. Je vis grâce à vos soutiens sur patreon.com/rdvtech et C'est grâce à ça que je peux continuer à faire mon métier, que je peux continuer à acheter des purées de fruits à mon petit loulou qui vient me dire bonjour et qu'il m'aime pendant les émissions en live, et que je peux continuer à vous produire justement ces émissions. Donc si vous appréciez ce qu'on fait, nos analyses et nos discussions, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir pour une somme modique, si vous pouvez vous le permettre, hein, évidemment, et avoir d'une part les bonus, je parlais de l'after show tout à l'heure, on en fera peut-être un en écoutant plus de musique, les éditos qui sont réservés aux Patriotes aussi, et puis les émissions sans pub, sans même cette petite, ce petit laïus au milieu, etc., etc. Et en plus, la fierté de soutenir l'émission. Donc, quand vous arrivez chez vous, que vous mettez les clés dans le bol, ou alors même tout de suite, hein, vous êtes dans le métro, vous pourriez vous abonner sur patreon.com/rdvtech. Ou alors, quand vous arrivez chez vous, vous allez voir, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et vous dites Patrick. Si vous n'avez pas de bol, quand vous, vous allez à la machine à café, que vous faites votre café, ça fait glou, 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 vous dites « Oh, mais il faut que je pense à Patrick ». Et si vous n'avez pas de bol et pas de machine à café, enfin, je sais pas, vous oubliez pas. Ou alors vous oubliez, c'est pas grave. Mais ceux qui n'oublient pas, ils ont une place spéciale dans mon cœur, juste en dessous de mon fils. Vous voyez, il y a mes enfants et ma femme. Et juste en dessous, il y a vous. Juste là, je vous montre sur le live. Et vous savez que vous êtes dans mon cœur et que je vous aime d'amour. Patreon.com/rdvtech. C'est quand même assez simple, tout à coup, de se sentir aimé et apprécié. Les entrevues avec les psychologues sont un petit peu trop compliquées à faire pour moi, donc je devrais peut-être commencer à parler de mon rapport que j'ai avec mes patriotes. Bref, si vous voulez rentrer dans cette relation compliquée, patreon.com/rdvtech.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec... Je vous ai dit que j'étais fatigué, hein, que j'étais un petit peu malade. Ça se sent, je crois. on continue avec le reste de l'actualité. Et quelques news. Du fric pour Patrick, c'est pas mal, ça. Du fric pour Patrick, c'est un bon slogan. Il faudrait peut-être avoir des pancartes dans certaines manifs. Non, ça ne vous inspire pas. Les influenceurs bientôt obligés de rentrer dans le rang. Comment ? Je ne me considère pas comme un influenceur. Mais, visiblement, il y a eu plusieurs propositions de loi. Nous rapporte Numérama, tiens, une publication que je consulte. Il est sympa, hein, franchement. et il y a plusieurs textes qui visent à encadrer la pratique. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, le terme influenceur était... Enfin, personne n'en voulait, et aujourd'hui, c'est carrément devenu un terme qui est utilisé parce qu'il est clair et tout le monde le comprend. Ce qui me frappe, c'est que c'est pour des questions de... en gros, hein, je schématise, mais en gros, c'est vraiment la clarté, l'ouverture, comme on dit, avec la pub. Les influenceurs ne sont pas assez clairs sur le fait qu'ils font de la pub quand ils font de la pub. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà illégal de ne pas être clair, mais peut-être pas déjà illégal spécifiquement pour les influenceurs. C'est clair pour les journalistes, c'est clair pour les publications, mais les influenceurs, il n'y a pas un texte de loi qui dit spécifiquement les influenceurs doivent dire quand ils font une communication qui est de la pub. Et donc là, la loi devrait les rappeler à l'ordre. Enfin, il y a des propositions, on verra si ça sera voté.
Oui, il y a quand même. Je crois qu'ils tombent quand même normalement sous le coup de la publicité en ligne tout court, avec l'obligation de mentionner article sponsorisé ou de mentionner vidéo sponsorisée. Enfin, c'est peut-être ça que tu disais.
C'est ce que je voulais dire. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un texte en plus spécifique pour les influenceurs ?
J'imagine qu'il y a besoin de s'attaquer vraiment au problème, et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas encore assez de spécificité, ils ont peut-être que des influenceurs réussissent à s'en sortir en jouant un peu avec les mots, ou que les choses sont pas encore assez bien clarifiées. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on a beaucoup traité le sujet, et à chaque fois, les propositions, il y a eu des propositions de députés également. Et on se demande un peu à quoi est-ce que, on le sait, hein, les projets de loi qui sont, ou les propositions qui sont distribuées, qui sont déposées, c'est toujours un petit peu en rapport avec l'actualité. Et là, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'influenceurs et d'influenceuses qui ont été un peu mis au jour, pour des, notamment dans le monde des crypto-monnaies.
Ouais,
ça fait pas mal de bruit, parce que c'est vrai que même nous, on est confrontés à ça. Un traité des crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est assez compliqué, parce que pour en traiter, est-ce qu'il faut en avoir ? Mais si on n'en a pas, comment est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne ? Mais si on en a, quel est le conflit d'intérêts derrière ? Et ensuite, nous, on est journalistes, donc on fait la part des choses, on a un salaire qui est payé différemment. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui se lancent. Et il y a eu tout ça avec tous les délires avec les NFT également. Et les influenceurs et influenceuses crypto, ils marchent sur cette ligne vraiment très, très fine entre l'information et le conseil. Et en fait, qu'on remarque quand on traite des cryptos, c'est que la majorité des gens qui lisent les articles, c'est pour savoir ce sur quoi ils doivent investir. Et le reste, ils s'en foutent. Et en fait, c'est vachement sur ça, je crois, que ça se joue aujourd'hui. Et notamment, il y a eu un couple là d'influenceurs, comment il s'appelle, Marc Blatta, qui a été dont le compte a été supprimé parce qu'il faisait la promotion de NFT, qui pousse notamment du coup à l'achat de codes de crypto, etc. Et ça s'engraine. Et donc, je pense que c'est aussi c'est peut-être plus ça, plus une réaction à aujourd'hui, de plus en plus d'influenceurs proposent des investissements, des placements financiers, quoi. Vraiment très, très concrètement. On n'est plus sur achète cette crème de jour, ou même le dropshipping. Là, on est sur un autre délire, quoi.
Ouais, en plus, c'est vraiment la question qui est centrale. Moi, j'ai du mal à voir en quoi cette proposition de loi, elle est très différente, parce que tu le dis bien, Patrick. Enfin, le cadre légal, il est très clair aujourd'hui. C'est interdit, quoi. Enfin, c'est pas interdit. C'est tu dois être transparent, tu dois afficher le fait que c'est de l'influence, que c'est de la publicité, etc. Et tout ça est très clair. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une nouvelle loi qui n'apporte pas grand-chose, mais qui ne solutionne pas le problème de comment est-ce que on applique cette loi. Comment est-ce qu'on condamne les gens ? Et finalement, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot. Il y a même l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, qui est hyper claire spécifiquement sur les produits financiers dans lesquels tombent ces sujets d'investissement crypto. Donc vraiment, je regarde ça avec beaucoup de curiosité. Mais je n'ai peut-être pas compris la totalité des textes de loi.
Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un texte une étude de la DGCCRF qui a conclu que 60% des influenceurs sur lesquels ils ont enquêté avaient présenté des anomalies. Alors, les anomalies, ça peut être des trucs divers, c'est pas forcément une faute grave précise, mais des anomalies, peut-être que le secteur a suffisamment grandi pour l'encadrer spécifiquement. Et je crois que ça serait pas plus mal, parce que beaucoup de gens savent que quand t'es plutôt tu fais de la pub en ligne, ou tu es dans un cadre journalistique, tu as un certain nombre de règles qui s'imposent. Peut-être que les influenceurs viennent d'ailleurs, et je dis ça pas du tout de manière péjorative. Quand tu grandis et que tu es entouré d'influenceurs qui vivent de leur contrat de sponsoring, et que tu commences à 12, 13, 14 ans, et que peut-être qu'il y a des gens assez jeunes, 16 ans, qui commencent à gagner en popularité, peut-être qu'ils ne savent pas, machin. Au moins, s'il y a un texte qui dit « les influenceurs, vous faites ça », ça sera plus clair, possiblement. Mmh. J'arrive au sujet que vous attendiez tous, la merdification, le cycle de la merdification de TikTok. Alors, c'est Cory Doctorow qui est, un penseur du net, quelqu'un qui est extrêmement connu et qui a fait beaucoup de choses, qui a publié un article qui m'a paru très intéressant sur le enshitification des plateformes. Alors, il veut parler de TikTok et il prend comme exemple Amazon, mais ce dont il parle est assez intéressant et assez universel. Il dit, les plateformes, elles ont un cycle qui s'est répété depuis 20-25 ans et qui semble être la manière dont... Alors lui, il dit la manière dont elles meurent. Moi, je ne suis pas sûr qu'elles meurent, surtout quand il prend l'exemple d'Amazon. Ça va encore très bien pour eux. Peut-être que ça va de moins en moins bien, c'est possible. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au départ, ils ont des conditions qui sont excellentes pour leurs utilisateurs. Donc, les utilisateurs viennent sur la plateforme. Et puis, ils commencent à abuser de leurs utilisateurs pour faire une, pour donner des conditions meilleures pour leurs clients de l'autre côté. C'est-à-dire que ces plateformes sont souvent l'intermédiaire entre les clients finaux et les vendeurs, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils abusent de leurs utilisateurs pour offrir de meilleures conditions à leurs vendeurs. Et les vendeurs, on parle encore d'Amazon, finissent par utiliser tellement la plateforme que ça devient indispensable, mais les conditions se dégradent pour les utilisateurs. On voit, par exemple, ce qui se passe sur Amazon, effectivement, avec la pub. C'est devenu infernal. On n'a plus... Enfin, infernal. Il est hyper difficile de trouver un objet non sponsorisé quand on fait une recherche. Et la troisième étape, c'est que ils abusent de leurs partenaires pro, donc les vendeurs par exemple, pour récupérer autant de valeur que possible pour eux-mêmes et pour leurs actionnaires évidemment, pour la boîte elle-même. Et au final, ils finissent par mourir, dit Cory Doctorow. Je ne suis pas certain avec la fin. Je pense qu'ils peuvent s'accrocher à la vie très longtemps avec des conditions d'utilisation vraiment déplorables des deux côtés parce qu'ils se sont rendus indispensables. Mais je trouve ce cycle, quand on l'entend, on se dit que c'est assez clairement énoncé pour devenir une sorte d'évidence. Et on se dit, bah oui, évidemment que c'est comme ça. Mais le fait de le présenter de cette manière est assez édifiant, je trouve. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec cette loi de la merdification ou le cycle de la merdification que décrit Cory Doctorow.
J'aime le terme en tout cas. Franchement, j'aime ta traduction aussi, Patrick.
Oui, moi, j'ai une sorte de comment dire, de liberté artistique dans la traduction de enchetification. Bah oui. La merdification, ça me paraît adapté.
T'as pas besoin de ChatGPT pour t'aider à traduire ça de ton côté. Mais non, moi j'ai eu une espèce d'épiphanie en fait en lisant cet article, Patrick. Donc merci déjà de l'avoir partagé dans ta veille. Je trouve ça hyper intéressant. Et t'as un exercice. Enfin, je sais pas si ça vous a fait pareil, mais en lisant l'article, je me suis fait un exercice de me dire ah mais oui, c'est comme tel service. Et en fait, c'est comme tel réseau social, etc. Et en fait, t'en arrives à la conclusion en fin d'article de dire mais en fait, quelles sont les entreprises de la tech qui ne fonctionnent pas comme ça ? Bon, je schématise parce qu'en fait, il y en a plein, mais j'ai trouvé vraiment la réflexion hyper intéressante et très facile à transposer dans plein de situations, en tout cas.
Marie, t'es d'accord ? La merdification.
On peut même aller encore un peu plus loin. C'est un peu la mondialisation dans le néolibéralisme qu'on connaît actuellement qui est un peu voué à ça. La manière dont l'article décrit... donc il y a Amazon et puis après il parle de Facebook dans le côté Facebook était d'abord sympa pour nous et puis ensuite tout a changé parce qu'il y a eu beaucoup de pubs, beaucoup de changements d'algo. C'est juste que les algorithmes ont été au fur et à mesure du temps twitchés jusqu'à récompenser de plus en plus les comportements négatifs et en fait c'est vrai que toutes les autres plateformes ont vu la même chose et c'est simplement par l'appât du gain. Enfin, sans vouloir être réductrice, mais il n'y a qu'une seule raison pour laquelle aujourd'hui on n'a plus aucun fil chronologique dans nos feeds, dans nos applications de réseaux sociaux. C'est parce que le fil pondéré, il permet de vendre plus de pubs, il permet de générer plus d'énervement et d'engagement et de nous faire rester plus longtemps. Et c'est que des logiques financières derrière. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Après, il n'a pas réinventé la roue non plus en parlant, mais ça semble plutôt logique. Après, je trouve que TikTok, pour moi, c'est la première plateforme qui s'est lancée en étant déjà comme ça. C'est-à-dire que l'algorithme n'a jamais été chronologique. Non, mais c'est, y a quelque chose de fascinant. Moi, je passe ma vie à regarder
C'est une meilleure expérience sur TikTok, l'algorithme.
C'est absolument incroyable d'avoir pré-mâché à ce point-là, d'avoir compris à ce point-là comment les gens voulaient juste se faire porter. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit sur Netflix à l'inverse. Eux, Netflix a du mal aujourd'hui parce que justement, ils n'ont pas un algorithme à la TikTok et les gens sont perdus sur leur plateforme parce qu'ils ne savent plus quoi regarder. Il y a tellement de contenu qu'ils ne savent plus quoi regarder. Donc maintenant, la force de précursion, de proposition, c'est ce qui est le plus important. Et du coup, la TikTok, on est sur un réseau social qui a, c'est même pas un réseau social, c'est une espèce de plateforme qui a complètement assumé le fait qu'elle va vous donner ce qu'elle veut. et vous faire croire que c'est ce que vous, vous voulez. Et donc, on est... Enfin, je trouve qu'elle a sauté une étape, en fait. Elle a pas forcément dit... on n'entre pas dans TikTok en se disant « Le monde est beau et je suis en contrôle ». On se dit « Oh là là, c'est fou, j'ai encore perdu 4 heures ».
C'est une expérience qui est hyper
cette conscience-là, elle est différente. Non, vas-y, pardon.
Excuse-moi, je croyais que tu avais fini. J'allais dire, c'est une expérience qui est assez proche de la télé, justement. On en parlait tout à l'heure. TikTok, tu y vas et tu regardes ce qu'ils te proposent, plutôt que d'aller chercher ou même suivre certaines personnes.
C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, mais est-ce que les premiers accès à l'époque à Musical.ly et à TikTok n'étaient pas quand même là aussi axés vous créez le contenu, vous le mettez à disposition du plus grand nombre.
Il y a toujours des gens qui créent du contenu. Mais c'était pas. Non, le truc, c'est que beaucoup plus que sur des réseaux comme Twitter ou Facebook, sur ces réseaux, on y allait, on commençait à suivre quelques personnes tout de suite. Mais le contenu est beaucoup, surtout au départ, c'était souvent juste du texte et c'était pas du contenu à forte valeur ajoutée. Le contenu sur TikTok, c'est du contenu qui a, malgré ce que diront les cyniques, du contenu à forte valeur ajoutée. C'est du contenu créatif, comme je le dis souvent. Et du coup, tu peux juste aller et je veux dire, si tu vas sur Twitter et que tu vas juste regarder, surtout au début, hein, encore une fois, du contenu au hasard, ça va pas être intéressant. Sur TikTok, tu vas voir du contenu au hasard populaire. Ça te fait rire, c'est intéressant, c'est du contenu qui est produit. Et donc, au départ de TikTok, la plupart des gens, surtout quand ça a commencé à devenir populaire vraiment en Occident, la version TikTok, tu suivais personne, parce que personne n'était sur TikTok. Les jeunes, ils ont peut-être mis très vite, mais la plupart des gens... Encore aujourd'hui, moi, je ne regarde pas les gens que je suis sur TikTok. Pour produire une vidéo TikTok, si c'est pas juste... Sur TikTok, tu ne vas pas juste allumer ta caméra et dire « Ah, aujourd'hui, je me suis fait des pâtes ». Il faut que tu produises un truc qui a une valeur d'entertainment forte. Donc, c'est compliqué d'aller juste suivre tes amis. Après, tu commences à trouver des gens que tu aimes et que tu suis. Mais au départ, il n'y a jamais eu de fil. Enfin, s'il y en a un, et tu peux y aller. Mais la page For You, c'était ça représente, j'en sais rien, 95% de ce que les gens regardent sur TikTok.
C'est vrai, ce que tu dis, c'est important, et je ne l'avais pas verbalisé comme ça, c'est que de plus en plus de gens vraiment travaillent pour TikTok sans être rémunérés. À l'époque, publier un post Facebook, ça ne demandait pas grand-chose. Faire un tweet, ça ne demande pas grand-chose. Maintenant, il y a des gens qui savent faire des beaux tweets, ils savent faire des beaux threads. Mais le degré de... Et Instagram, pour le coup, est venu un peu transformer ça en poussant les gens à plus travailler leurs vidéos. Mais quand je vois la qualité, vraiment, la qualité et le temps que ça prend de faire une belle vidéo TikTok... mais en fait, c'est aussi ça qui est hyper différent aujourd'hui. C'est la manière dont tout le monde a accepté de travailler gratos pour faire le meilleur contenu possible pour l'algorithme, quoi. Enfin, c'est assez fascinant parce que du coup, nous, on regarde ça et on trouve ça cool. Mais enfin, le travail qu'il y a derrière et l'intensité... Enfin, pour moi, les gens qui sont là-dessus, ça pourrait être un métier, quoi. Sauf que la majorité des gens ne sont pas du tout payés. La majorité des gens plafonnent à 70 000 abonnés, et même s'ils ont 70 000 abonnés en vrai, nous on en a 70 000 abonnés sur Numérama, sur TikTok, tu peux faire une vidéo à 500 000 vues, et puis tu peux faire une vidéo à 300 vues, quoi. La part d'aléatoire n'a jamais été aussi importante, et finalement aussi acceptée. Sur Instagram, les gens, ils râlent, les influenceurs qui sont là en disant, dis donc, mon post, maintenant, il a fait plus que 200 likes, avant, il en faisait 300, je suis shadowban et tout. Sur TikTok, j'ai l'impression que les gens ont accepté beaucoup plus facilement les règles du jeu. C'est un peu cynique aussi, mais...
Je pense qu'il y a, on commence à partir très loin de notre sujet initial, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est les influenceurs, enfin les créateurs, surtout vidéo, n'ont jamais fait assez d'argent sur la plateforme. Ça n'a jamais été le cas. Sur YouTube, tu ne peux pas survivre si tu as la pub de YouTube. Tout le monde fait son argent à part si tu fais des millions et des millions de vues, mais la plupart des gens font leur argent avec leur deal de sponsoring. Et je crois que c'est la même chose sur TikTok. Et il y a un article intéressant sur Fortune, là je suis sur le Paywall, mais qui décrit des créateurs qui ont des gros followings de plus de 100 000 personnes qui disent qu'ils ont gagné 5 dollars de leur programme de revenus chers avec TikTok. C'est un peu... effectivement, TikTok ne les paye pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si je caractériserais ça de la manière dont tu le fais. Ils travaillent pour TikTok. De la même manière que je ne dis pas les gens travaillent pour YouTube ou ils travaillent pour Twitch, les mêmes questions se posent sur ces autres plateformes, mais c'est clairement la question. C'est est-ce qu'ils travaillent pour TikTok ou YouTube ou Twitch, ou est-ce que TikTok, YouTube et Twitch sont des intermédiaires qui leur permettent de se connecter aux personnes qui veulent les regarder. Et on pourrait en parler pendant quelques heures. Je crois que Marie a son avis déjà assez déterminé. Je ferai d'ailleurs... j'ai plein d'éditos qu'il faut que je fasse. Le jour où mes enfants seront plus malades. Hein. Merde, je vous dis que c'est compliqué. Mais un truc, par exemple, sur la nature de ce genre de métier, j'avais une comparaison qui me paraissait intéressante avec le métier de footballeur. Et je sais que c'est pas exactement la même chose, mais il y a en France, je crois, 1 à 1500 footballeurs professionnels. 1 à 1500 personnes qui vivent de leur métier de footballeur. Et pour moi, parce que je prends souvent l'exemple de la musique, tu veux être musicien, bah, y a personne qui va te payer pour être musicien. Enfin, si, tu peux trouver des gens, mais je veux dire, t'es un petit peu livré à toi-même. Et footballeur, c'est pareil. Et pour moi, Twitch, TikTok, tout ça, c'est un petit peu pareil aussi. Podcaster, c'est pareil aussi. Mais... Bon, bref, c'est tout un autre sujet. Je suis allé demander à ChatGPT comment on traduirait « enchitification » in French. Il m'a dit « enchitification » n'a pas de traduction française officielle. Je ne me suis pas laissé abattre. J'ai demandé « try it, be creative, essaye, sois créatif ». À ma grande surprise, il a répondu. Il me dit « enchitification » pourrait être traduit en français comme « ensalement ». C'est pas mal, ok. Je lui dis « un peu plus vulgaire, a bit more vulgar ». Et il me dit, enchitification pourrait être traduit de manière plus vulgaire en français comme merdisation. Pas mal.
C'est pas mal. Hein. C'est pas mal.
Alors, c'est
pas
merdification.
Je préfère la tienne, mais c'est pas mal.
Ouais, c'est voilà, merdification. Quand même la supériorité de l'esprit humain sur l'IA. Mais merdisation, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Allez, on va aller un petit peu plus vite. On vend moins de smartphones dans le monde. C'est la plus grosse chute de l'histoire des trimestres de vente de smartphones. Il y a eu une chute d'une année sur l'autre de 18,3%. Xiaomi en a le plus souffert, Apple un petit peu moins, mais 18%. Clairement, les gens achètent moins de smartphones cette année. Ming-Chi Kuo dit qu'il y aura un iPad pliable dès 2024. On avait déjà entendu parler d'un projet d'iPad pliable. Là, il arriverait dès 2024, ça va arriver vite, donc à voir ce que ça proposera. Et puis, Sony a décidé visiblement de diviser ses prévisions de vente pour le PSVR 2 par deux. Il prévoyait d'en vendre 2 millions, il pense maintenant n'en vendre qu'un million. Ça me fait rire parce que je me suis beaucoup fait embêter par des gens qui aiment beaucoup visiblement Sony et la VR. Quand j'étais un petit peu tiède suite à l'annonce du line-up et du prix du PSVR 2, je me suis dit bah, ça va pas, c'est pas ça qui va étendre le marché de la VR. Et bah, clairement, Sony a l'air finalement d'être d'accord. Il est très très cher ce casque, même s'il a l'air très cool.
Sur les smartphones, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui ou hier soir, il y a le baromètre de l'ARCOM qui est tombé. C'est pour connaître les évolutions des usages des Français. Et si dans le monde, on vend moins de smartphones, il y a marqué que les Français vendent trop souvent de téléviseurs. Ça m'a fait rire. Je pourrais vous envoyer le lien. Visiblement, on est très attachés en France à changer très, très régulièrement nos téléviseurs et à aller acheter vers du neuf. Et du coup, ils disent que seulement 20% des Français ont un téléviseur qui a plus de 10 ans.
Plus de 10 ans ? Ah oui, alors j'allais te dire tous les combien de temps il faudrait changer.
Ils disent seule une personne sur deux, 50% depuis moins de 5 ans. Donc il y a un Français sur deux qui a un nouveau téléviseur qui a moins de 5 ans. Quoi.
Je me sens tout à coup très coupable. J'ai changé ma télévision, mon dernier téléviseur, il y a 5 ans. Au bout de 5 ans, c'était à peu près il y a 5 ans. Donc faut que... j'ai une chance de me reprendre. Il faut que je le garde encore 5 ans. Ça va, il est quand même pas moche, mon téléviseur. Il est même plutôt très beau. Donc. Oui, mais j'avais pas pensé. 10 ans, une télévision ? Ouais. Ça va.
Ouais.
Surtout
si t'achètes C'est vrai qu'on peut en déduire que les évolutions dans les télés, et notamment dans l'image et les écrans, sont quand même plus folle et novatrice qu'aujourd'hui dans les smartphones. Après, on peut aussi se dire que bah, les smartphones, ça coûte quand même vachement cher et que bah, c'est un peu la crise en ce moment. Nous, on l'a remarqué, notamment, bah, même les collègues de Frandroid l'ont remarqué aussi, quand on parle de produits et quand on a des articles, des bons plans, des choses comme ça, on voit que les gens réfléchissent à deux fois, quoi, avant de se lancer dans un achat.
La conclusion, c'est qu'il faut que Pépé Garcia arrête de donner envie aux gens d'acheter des nouvelles télés tout le temps, quoi.
Exactement.
Ouais, mais du coup, 10 ans, ça me paraît pas... Enfin, moi, j'ai acheté la mienne, c'est une 4K, elle est très très belle, OLED 4K. Je pourrais la garder 5 ans de plus, je pense. Et ça risque d'arriver dans 10 ans, c'est peut-être pas... Si t'achètes une télé qui est déjà genre pas top quand tu l'achètes, effectivement, ça peut être dur de la garder 10 ans, mais si tu achètes vraiment une bonne télé, comme si tu achètes un bon smartphone, je sais pas si ton smartphone, c'est un peu plus dur à garder 10 ans, mais 5 ans, c'est largement possible s'il est mis à jour pendant 5 ans.
Ouais.
Bon. Quoi d'autre ? Procès contre Google. Alors, ça, c'est important. Le département de la justice américaine, je crois que j'en parlais comme une rumeur la semaine dernière, il lance effectivement un procès, c'est le ministère de la Justice, en gros, un procès contre l'omniprésence, la domination du marché de la pub en ligne chez Google. C'est très sérieux et c'est en train de commencer là aux États-Unis. On a aussi donc ça pourrait amener une séparation du business ad tech de Google. Et on a aussi en Europe une investigation chez Microsoft sur Teams et l'intégration à Office. Il y a une plainte de Slack qui a été émise en 2020. D'une manière générale, clairement, on a une tendance qui est que bah, les États s'intéressent aux géants de la tech et essayent de leur... expliquer qu'il faudrait peut-être suivre les règles et les lois de ces États. C'est marrant, j'en parlais déjà la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de, comment dire, presque d'attitude. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 ans, on se disait « Ah, les GAFAM, ils sont tellement gros, ils font leurs lois, c'est presque des États. » Combien de fois on a lu « Les GAFAM, s'ils sont aussi gros que des États, ils ont plus d'argent que les États, ils ont plus d'employés que machin. » Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à la fois aux États-Unis et dans l'Union européenne, avec le RGPD ou ce genre ou là le DMA et DSA qui arrivent, on est vraiment en train de se dire, bah non, en fait, on leur dit comment ça marche et ils sont contraints de suivre nos règles. Donc, je trouve que c'est plutôt...
J'ai même le chauvinisme ou l'européanisme, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait décliner ce mot, tu demanderas là aussi à ChatGPT, mais de penser que justement c'est aussi les initiatives dans le domaine de la régulation en Union européenne qui non pas inspirent mais cautionnent peut-être aussi certaines actions aux États-Unis sur leur propre terrain. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas si simple. Hein, mais...
Je crois que tu peux le dire, si, le RGPD a carrément fait une très forte impression aux États-Unis aussi. Et ce qui est marrant, c'est que malgré de nombreuses critiques du RGPD, je pense que beaucoup de gens sont un peu frustrés, et nous aussi, du fait qu'avec les cookies, c'est le plus visible, quoi. Avec les cookies, il faut cliquer sur l'approbation des cookies, c'est un peu chiant, surtout quand je suis en live sur Twitch. Mais au-delà de ça, oui, ça a complètement donné le là. Moi qui suis l'actualité tech, y compris aux États-Unis, je peux te dire que tout le monde en parle, et même si beaucoup désapprouvent de cette forme du truc, alors il y a aussi l'arrivée de Biden et la réaction à la puissance en général des GAFAM, mais je pense que la manière dont l'Union européenne a géré les choses a montré la voie, peut-être ouvert la voie, je crois qu'on peut le dire. Et puis ça s'arrête pas, hein. Ça continue. Et puis est-ce qu'on s'impose le Twitter time? Bon allez, je prends sur moi, it's Twitter time.
C'est pour le boulot.
Ben voilà, il faut. Hein. D'abord, bon, Elon Musk a continué, Elon Musk, non, le Twitter d'Elon Musk a continué à réactiver les comptes de, notamment de nationalistes en Inde, ce qui est, bon, c'est pas que en Inde. Il y a un autre sujet qui est peut-être encore plus... plein d'enseignements. Ils ont rétabli le compte de Nick Fuentes, qui est un suprémaciste blanc. Mais là, on est... Enfin, je vous dis souvent, et je sais que beaucoup d'entre vous le comprennent et en sont convaincus, mais je vous dis souvent, le problème que j'ai avec Musk et avec cette tendance de la droite américaine, c'est pas juste qu'ils sont de droite. Moi, j'ai des tendances de droite et des tendances de gauche, ce qui me pose parfois des problèmes dans certaines conversations, mais... Je suis pas particulièrement, j'ai pas de problème sur les idées, même avec des idées avec lesquelles je suis pas d'accord. Celle-là, c'est une autre catégorie. Et en l'occurrence, le Nick Fuentes dont ils ont rétabli le compte, c'est pas juste un nazi qu'on accuse d'être un nazi en faisant de l'hyperbole. C'est littéralement quelqu'un qui vante les qualités d'Adolf Hitler, qui dit qu'il était super cool et que... Enfin, il y a des vrais nazis aussi, il y en a des vrais et ils sont dans cette mouvance politique. En l'occurrence, Twitter a rétabli son compte. Suite à la levée de bouclier, les huées, bah, ils l'ont rebanni un jour après. Mais là où il y a un enseignement, enfin, il y en a deux, c'est que d'une part, oui, il y a bien un problème dans ces mouvements politiques, un problème de suprémacisme blanc et de nazisme, c'est pas une invention. Et d'autre part, c'est quand même saisissant que Twitter, encore une fois, arrive aux conclusions que Twitter avait eues en 10 ou 15 ans de pratique, et que Elon Musk a récusé en disant « Bon, ça va, moi, je sais comment faire, on rétablit tout le monde, ça va. » Et finalement, ils se rendent compte que, on rétablit les gens. Et donc, il faut resupprimer les comptes des gens qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a une conclusion à ça autre que celle qu'on a depuis des mois dont on parle de Twitter, mais on en a encore un exemple, quoi. Pardon ?
Ça me fait rire. Je me disais, la conclusion, c'est juste qui fait le malin tombe dans le ravin, quoi. En fait, ça fait des années, ça fait des années que Elon Musk se vante de mieux savoir que tout le monde quoi faire, alors que ça fait des années que Twitter a mis des centaines de personnes sur le coup pour essayer de trouver le bon équilibre, quelle modération mettre, quelle loi, machin. Et lui, il arrive, il pense qu'il a tout compris, et bon, voilà.
Ouais. À vrai dire, ce qui me frustre encore plus, c'est qu'on va prendre quelques exemples de quelques personnes comme ça et dire « Ah ben voilà, regardez, on les a bannis !» C'est comme il a rebanni Kanye West. Super, effectivement. Là, on est dans des situations où c'est difficile d'imaginer de ne pas le faire. Et puis, il banne Nick Fuentes. Et puis après, il va pouvoir dire « Bah voilà, non mais nous, les nazis, on les... » Mais bon.
Ouais, je suis d'accord.
Tu parlais de la droite américaine. Je suis désolé d'en faire autant sur la droite américaine. J'en parle quasiment à chaque épisode. Et peut-être que j'enfonce trop le clou. Mais encore un exemple de les IA sont woke. On a Fox News, qui est l'organe de communication traditionnel de leur idole Donald Trump, qui a expliqué que... Enfin, c'est pas Fox News en général, mais ils ont eu quand même un segment dans lequel ils ont parlé d'un nouveau mode basse consommation d'énergie de la console Xbox. Basse consommation d'énergie, ça veut dire qu'elle démarre plus lentement, c'est basse consommation, quoi. Et dans ce segment-là, ils ont expliqué que c'était un moyen pour la société Microsoft, la Xbox, de recruter les enfants dans les politiques climatique dès le plus jeune âge. Et ils disent littéralement « They're going after the kids » dans ce segment. Alors, c'est pas tout à fait...
Oui, j'ai bien ri, j'avoue. J'ai bien ri parce que du coup, on l'a fait en article et juste de mettre « Ils s'en prennent aux enfants » en titre, ça nous a bien fait rigoler. Parce que mais après, ce qui est quand même incroyable, c'est la manière dont le réchauffement climatique et les positions écologistes ont été politisées aux États-Unis à ce point-là. C'est que c'est pas possible que ce soit à ce point-là une opinion de dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Enfin, bon, ça fait des années qu'eux ont pavé la voie là-dessus en interrogeant beaucoup trop de climato-sceptiques par rapport à la représentation des climato-sceptiques dans les scientifiques. Mais ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on en vient à... Là, il y a eu la même chose au même moment sur les MMNs prétendument woke qui seraient annulés et finalement, ils ne seront sûrement pas annulés. Ouais. Peut-être que ça est allé trop loin, tout ça. Peut-être qu'il faut vraiment se calmer, vraiment globalement. Et enfin, c'est pas possible qu'il y ait un tel clivage. Et c'est drôle parce que c'est un clivage qu'on fait vachement porter sur Internet depuis le début, là. Depuis une décennie, on dit c'est les réseaux sociaux qui nous ont clivés, c'est les réseaux sociaux qui... Mais en fait, t'as une chaîne comme Fox News qui fait des millions et des millions de téléspectateurs par jour qui contribuent... Enfin, c'est comme les chaînes d'information en continu chez nous, en fait. C'est vraiment que il faut vraiment pas se dire que c'est de la faute de Twitter si le monde va mal et que les wokistes ont pris le pouvoir et que la droite extrême. Enfin, c'est pas que ça, en fait. C'est que c'est tout un système qui s'est auto-alimenté et il y a peut-être plus de racines aujourd'hui, mais en débrancher juste un, ça suffira pas, en fait.
D'accord. J'ai envie de te poser une question. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais je me demande si, finalement, est-ce que nous, on n'en fait pas trop aussi avec ces trucs ? Parce que, honnêtement, ce segment-là de Fox News, alors il est drôle, donc on en parle parce que c'est finalement plus drôle que... Mais il y a eu, c'est un truc qui est passé en milieu de journée, il y a, je sais pas, 10 000, 100 000 personnes qui l'ont regardé, peut-être que certains ont soupiré, même des spectateurs de Fox News se sont dit, ouais, enfin là, les gars... Et tu vois, c'est des trucs qui sont tellement outranciers que personne n'y croit. Et nous,
ouais, tu dis pourquoi est-ce que nous on fait un article dessus.
Voilà, non, mais je dis vous et moi qui en parle, et je parle régulièrement de ce genre de trucs. Pareil avec les IA qui sont woke. Oui, alors il se bat contre le wokisme, mais est-ce que cette histoire, tu vois, on a besoin d'en reparler Est-ce qu'on ne fait pas leur jeu finalement? Et en mettant en exergue ce genre de choses, on monte les extrêmes et on s'intéresse peut-être un petit peu moins aux choses qui ont plus de portée. Et qui ont une vraie portée politique, alors que ça, Xbox, tu vois.
C'est tout le questionnement qu'il y a eu autour de Donald Trump, en fait. C'est à partir du moment en 2016 où Donald Trump est devenu président, ou voire un peu avant, c'était le bouffon du roi qui faisait beaucoup de clics. Donc on se disait, c'est pas forcément la peine d'en parler. Faut-il en parler? Est-ce qu'il faut Mais si on n'en parle pas, peut-être qu'on va louper quelque chose. On va louper un coche. Donc là, en ce moment, Fox News c'est quand même la première chaîne aux États-Unis qui est quand même la première puissance mondiale. Quand Fox News fait un segment en disant que Xbox est trop woke à cause que le réchauffement climatique n'existe pas et que on s'en fout, ça a quand même un impact sur des millions et des millions de personnes. Mais c'est vrai que on peut vraiment se poser la question. De l'intérêt de cette couverture-là et de... en fait, on peut se dire que ça reste qu'un mec qui dit n'importe quoi, comme on peut se dire que c'est n'importe quoi quand Cyril Hanouna fait une sortie sur les milliards qui vont à France Télévisions. Mais après, enfin voilà, c'est un vrai questionnement journalistique qui est très intéressant et pour le coup, typiquement, là, un article comme ça, moi, je sais que je l'ai accepté parce que c'était un fait divers. Je l'ai vu comme quelque chose de tellement drôle que ça montrait le ridicule jusqu'où on va. Mais c'est aussi très inquiétant parce que ça montre justement ce qu'aujourd'hui, on en est reçu à avoir ce genre de commentaires sur la chaîne la plus puissante des États-Unis. Enfin, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on accepte de regarder et qu'est-ce qu'on accepte de regarder à la télé et à quel moment l'opinion est devenue tellement sacro-sainte par rapport aux infos, quoi.
C'est ce qui fait que ça marche, hein, ces polarisations. Vous mettez le doigt dessus quand vous échangez sur le sujet. Vous avez à la fois la question et la réponse, à mon sens, tous les deux. Il y a un élément quand même qu'il faut garder en tête, c'est que c'est justement, je pense, le travail qui peut être fait dans les médias. Je pense évidemment à des sites comme Numérama ou à des podcasts comme Le Rendez-vous Tech, mais justement de donner des fenêtres de lecture sur ces sujets-là, de les éclairer, de ne pas les ignorer et de ne pas passer dessus à chaque fois parce que ce serait aussi assez contre-productif, je pense. Mais voilà, un travail qui ne pourra pas être remplacé par une intelligence artificielle qui est celle de soigneusement sélectionner ces sujets et les éclairer. Bravo, bravo.
C'est très gentil de ta part, merci Guillaume. En conclusion, je dirais qu'il y a un truc quand même qui est éternellement frustrant dans cette mouvance politique, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'on peut avoir des convictions avec lesquelles certains ne sont pas d'accord. Et c'est le cas dans cette émission, c'est le cas dans le spectre politique. Je pense qu'en France, d'une manière générale, pour une grande partie du spectre politique, et pareil dans les médias, il y a généralement des convictions avec lesquelles on va être en violent désaccord ou en violent accord, et il y a une sorte de polarisation qui peut se faire. Mais on n'atteint pas ce niveau de malhonnêteté politique qu'on peut trouver sur des chaînes comme Fox News ou sur des réseaux comme Truth. Et l'exemple qu'on donne là est venu en contraste dans ma construction d'émission, entre l'idée qu'ils disent ils sont en train d'essayer de recruter vos enfants dans les politiques climatiques, ce qui déjà est hallucinant, sur Fox News et dans le même temps d'avoir l'article sur les pubs qu'on trouve sur Truth Social avec le guide pour les enfants du président Trump et expliquer à vos enfants avec ce guide pour les enfants pourquoi le socialisme n'a pas de place en Amérique. C'est enfin, il y a une tous les politiciens sont d'une certaine manière malhonnête, il faut adapter son langage, il faut adapter son discours, mais il y a dans cette mouvance politique-là un disregard, comment dire, comment on peut dire disregard ?
Dédain.
Un dédain, merci, bravo, j'allais aller vers ChatGPT, mais j'ai Marie à côté, pourquoi m'embêter ? Un dédain pour une toute forme de rigueur intellectuelle et une poursuite de ce qui marche et ce qui peut en fait générer du clic ou des regards, quelle que soit la compromission morale. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens vont entendre ça en dire « Ah mais enfin, en France, tu te rends pas compte, il y a machin », et des gens qui vont dire « Ah mais il y a les syndicats, ah mais regarde, les Républicains et la droite et les machins », on n'est pas au même niveau, quoi. Donc moi, ça m'affole toujours, surtout que, comme le disait Marie, première puissance mondiale, et si demain, une bonne conclusion à ce sujet. Je vais quand même, là encore, par souci d'honnêteté intellectuelle, je vais vous dire deux choses sur Twitter, et Dieu sait que j'ai dit du mal de Twitter depuis quelques mois. Ils ont fait un paiement de 300 millions de dollars, semble-t-il, hein, c'est une source, mais ils ont fait un paiement pour le remboursement...
Pour leur loyer
des... Non, le loyer, ils ne payent toujours pas. Ça, on n'a pas besoin de... Hey, télétravail, garçon. On n'a pas besoin de bureau. Par contre, ils ont fait un paiement de 300 millions de dollars il y a quelques jours pour les intérêts que réclament les banques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils continueront à les faire, mais ils l'auraient fait, alors qu'on se disait, est-ce qu'il va réussir ? Il n'y a plus de pub, machin. Bon, ils l'ont fait. Et ils sont en train de développer des conditions pour... Enfin, des solutions techniques pour faciliter les paiements, ce qui serait une étape pour transformer Twitter en super app, qui est l'un des buts un petit peu étranges et nébuleux de Donald Trump. Mais bon, il semblerait que ça soit en cours. Et encore une chose... Alors qu'on, et moi y compris, pensait que tout s'effondrerait techniquement parce qu'ils avaient renvoyé les trois quarts de leurs ingénieurs, eh ben la plateforme continue à fonctionner et techniquement, on n'a pas eu de gros problèmes. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Ah, oh, mais attends, regarde, là, on n'a pas vu, il y avait des tweets qui ne s'affichaient pas de ci, de ça. » Bon, la plateforme ne s'est pas effondrée. Et contrairement à certains mouvements politiques, j'ai l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce qu'on craignait ne s'est pas encore produit. Ils ont même remboursé leurs dettes à ce stade. Hein. On verra ce qui se passe plus tard. Donc, voilà, un truc positif sur Twitter. Enfin, positif. Ça se passe bien pour eux. On est content, non, Marie-Guillaume ? C'est super. Ils payent
yes.
leurs dettes.
Bravo.
Les intérêts. Les intérêts, c'est pas la dette.
Les intérêts. C'est bien. Bravo.
Je vais sauter le sujet sur la Première Ligue qui fait un deal avec Solana pour faire pour vendre des NFT. Et on va donc arriver à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Marie et Guillaume de m'avoir accompagné, d'avoir agrémenté mes divagations de vos commentaires judicieux. Si on veut plus de commentaires judicieux et d'articles de qualité, on va commencer avec Guillaume. Tiens, on n'en a même pas parlé en début d'émission. J'ai ouï dire que tu avais lancé un nouveau podcast.
Ouais, je lance un petit projet qui se veut être plus personnel. Les personnes qui me suivent comprendront que c'est une manière très déguisée de faire parler les autres, mais en fait de parler de moi, parce qu'effectivement, je lance un podcast sur la parentalité. Donc, ça s'appelle Contrôle Parental. Et bah, évidemment, on peut qu'inviter tous les auditeurs à aller prêter une oreille. On a fait un premier épisode avec Benjamin Lubzinski. Je crois que tu avais fait un hors-série avec lui dans le Rendez-vous Tech, qui se présente comme étant psy et coach. Donc une nouvelle démarche, un nouveau format, si jamais il y en a qui sont intéressés, ils sont évidemment les bienvenus.
Et tu ne fais pas que ça dans le domaine des podcasts.
Oui, non, bien sûr, je ne dois pas oublier mes premiers amours. Effectivement, je propose aussi Tech Café chaque semaine avec mon compère Guillaume Poggiaspala, où on fait une observation peut-être un peu acerbe et acide parfois de l'actualité. D'aucuns nous traitent un peu des gauchos de la tech. Écoute, on va prendre ça comme étant un élément positif, Patrick.
J'essaye de compenser hein, ici, mais c'est difficile. Il faudrait que je sois un petit peu plus. Il faudrait que je commence à être un petit peu plus fermement. Comment dire ? Bon.
Un peu plus Fox News.
Alors, peut-être pas jusque-là, tu vois, mais BFM TV, je sais pas, un truc du genre, tu vois.
Polarisons les podcasts. Tech, polarisons. Patrick, polarisons.
Non, mais je pense qu'il est, vraiment... tu sais, si je me fais l'avocat du diable, c'est aussi pour ces raisons-là, mais sur les sujets qu'on choisit, j'ai souvent tendance... Peut-être qu'il faudrait parler, je sais pas, de retraite ou de trucs comme ça. Peut-être qu'on s'écharperait un peu plus. Marie, je vais pas te demander si t'es prête à travailler jusqu'à 72 ans, mais par contre, je vais te demander où on peut retrouver ton travail et tes publications.
Ah bah, il faut absolument aller suivre Numérama sur les internets, sur les réseaux sociaux qu'on n'arrête pas de tracher, mais aussi sur TikTok. Et aussi, on s'est lancé sur Twitch. Donc, on fait des let's play, on découvre des jeux vidéo avec les gens de la rédac et avec d'autres personnes. Donc voilà, allez nous voir.
Numérama un petit peu partout. Marie et Guillaume sont sur Twitter. Vous aurez les liens vers leur compte dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, y compris sur Mastodon, mastodon.social. Vous pouvez me retrouver là-bas et vous pouvez retrouver aussi tous les comptes sur les réseaux sociaux qu'on aime critiquer. Twitch, YouTube, il y a des replays sur YouTube. Vous avez Discord qui héberge notre communauté Discord, super sympa, où on passe de bons moments entre nous, et bien sûr Patreon, patreon.com/rdvtech, qui n'a pas encore initié sa procédure de merdification. Ils tiennent bon, hein, pour le moment, leur compas moral semble être assez solide. Donc vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission, et je vous en remercie. On va s'arrêter là, il y aura le petit after show, on va écouter un petit peu plus de musique pour les patriotes, et pour tous les autres, on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.